Prochain rendez-vous, alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je suis complètement idiot. Prochain rendez-vous dans une heure?
Non. Prochain rendez-vous avec l'information
Non,
dans une
une heure.
heure.
Prochain rendez-vous avec l'information dans une heure. Et maintenant, c'est éclectique.
Voilà. Il y a des gens avec qui vous sentez tout de suite que la conversation est pleine de promesses. Qu'elle vous mettra à l'abri de phrases du genre « la pluie, ça mouille » ou « la paix dans le monde, c'est mieux ». Richard Morgiev est un gars qui réussit à surprendre, même si la question qu'on lui pose n'est pas au niveau. Richard Morgiev est écrivain. Et tandis que nous causions littérature, il a dit
« c'est chiant de lire un livre, hein, c'est chiant, c'est... »
C'est alors que l'intervieweuse sait faire preuve de fulgurantes exclamations.
Ah bon ?
Au cours de cette rencontre, Richard Morgiev a dit aussi...
J'ai remarqué qu'il y a plein de branleurs qui se disent poètes et ça me fait rire.
Et là, rebelote.
Ah bon ?
Le bonhomme est à l'image de ses livres. Surprenant, jamais là où on l'attend. Dans le portrait que son éditeur dresse de lui, il est écrit qu'il pratique, je cite, le hors-piste littéraire. Il est aussi précisé que Morgiev était plutôt mal parti dans la vie, qu'il travaille beaucoup et qu'il court 1h30 par jour pour se détendre. Richard Morgiev vient de publier « United Colors of Crime » aux éditions Carnet Nord. C'est l'errance d'un Polonais devenu gangster aux États-Unis, un Polonais qui va croiser une Indienne avec un œil de verre. Cette interview a commencé autour d'une table de salle à manger, en buvant du vin donc, et si certains disent « jamais pendant le service », Richard Morgiev, lui, déclare
« Moi j'avais une loi théoriquement avant de vous connaître, c'est jamais avant 19h, mais bon... » Non, c'est pour pas être bourré toute la journée, quoi. Vous êtes vachement grande, quand même.
Ah bon?
J'ai l'impression que vous êtes plus grande que moi.
Attendez, on va se mettre côte à côte. Bah vous aussi, vous êtes grand.
Je suis grand.
J'aimerais bien que vous vous décriviez, vous.
Maintenant, alors je me vais. Non, c'est vrai. Non, je, vraiment, depuis, c'est très fort, depuis quelques mois, je me vais. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Hein. Alors, me décrire, ben, j'ai la gueule assez fracassée, enfin, pas de coups, mais bon, assez ridée, cernée. Il y a de la controverse quoi, sur ce visage, quoi. Des grandes oreilles, des cheveux tout ratés, et un grand nez, voilà, une petite bedaine. Voilà, légère, hein, c'est pas délirant, mais bon.
Santé.
À la nôtre. Moi, je pense que je serais mort si je n'avais pas écrit. Là, je suis sûr. Ça m'a, vous savez, retenu. Ça a lié les atomes, les cellules, et j'ai un corps parce que j'écris. Si je n'écris pas, je perds mon corps, je pense. Ça me tient. Mais je ne crois pas que je serais digne, par exemple, si je n'écrivais pas. C'est tant que je sois digne.
À partir de quel livre vous êtes senti écrivain?
Alors j'ai commencé par faire un recueil de poèmes à compte d'auteur, et à peine, j'avais 19 ans quoi, et à peine ai-je vu le livre que j'en ai conçu une très grande honte, j'ai fait un vœu de ne pas écrire pendant 10 ans. Et, en fait,
c'est un vœu de chasteté littéraire?
Ouais. Vraiment, j'ai eu vraiment honte, et voilà, je me suis puni.
Qu'est-ce qui vous faisait honte?
Parce que c'est nul. J'ai trouvé que c'était nul, pardon. Je ne juge pas les autres. J'ai trouvé que c'était nul de payer pour se faire éditer. J'ai débarrassé les caves, donc là j'ai fait un travail d'analyse merveilleux.
Ah, quand vous dites j'ai débarrassé les caves, c'est pas au figuré, quoi.
Non, c'est au propre. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. Donc débarrasser les caves, les greniers, les usines, les morts, c'est des vivants. Ça, en fait, c'est un travail merveilleux. Et je ne savais pas que je faisais en fait mon travail d'écrivain en débarrassant les caves, en faisant ce boulot de merde. D'abord, j'ai été très heureux et très fier de le faire. Enfin, je travaillais dans quelque chose que j'aimais. Et puis c'est après, bien après, quand j'ai eu 40 ans, je me suis rendu compte que j'avais fait vraiment une sorte d'analyse. Et après, bing, j'ai écrit. Là, j'ai fait un travail réellement symbolique. Bon, la propreté compte beaucoup pour moi. C'est très important. C'est comme la dignité. C'est propre, dessous, c'est propre. J'ai débarrassé. J'ai fait le propre. Et ultérieurement, d'ailleurs, j'ai compris que c'était très important de repasser mon histoire de famille, qui était quand même un peu funeste, propre. Donc, j'ai plein de défauts, mais j'ai jamais menti à mes enfants. Voilà. Rien dans les placards.
Votre histoire de famille, quand vous dites un peu funeste,
oui.
C'est-à-dire que votre mère est morte, vous aviez 7 ans.
Papa s'est suicidé ou peut-être a été tué. Là, maintenant, j'ai des doutes en vieillissant. Quand j'en avais 13, bon, ça a été... Ça n'a même pas été pénible, c'est un autre niveau. L'orphelin, je pourrais faire des livres dessus. Hein, il a toujours un peu il est dans une situation de pute. Il se retrouve après tout le temps à payer ce qu'il mange. C'est très dur. Quand vous avez votre père ou votre mère, même si vous avez qu'une envie, c'est de la tuer ou de le tuer, c'est normal qu'il vous donne à bouffer. C'est tout à fait normal. À partir du moment où vous êtes orphelin, rien n'est normal. C'est à partir de là que j'ai commencé à être bruyant, je pense, ou parce que je voulais signaler que je vivais. et c'était malvenu, au fond. Parce qu'en fait, l'orphelin, il est quand même déjà de trop. Et c'est très difficile, je pense, de se départir de ce genre de sentiment, de pute. Alors, c'est peut-être pour ça que j'aime la dignité, parce qu'on dit souvent que les vieilles putes veulent être dignes. Bon, ben voilà, quoi. Des trucs comme ça.
Ça, c'est important pour vous, la dignité. Hein?
Oui, c'est, disons, le privilège de quand on n'a rien. Si on peut avoir la dignité.
Vous n'avez pas rien, vous ?
J'ai eu rien. Ouais, moi, j'estime que je peux dire que j'ai eu rien.
Bah, c'était quand ?
Quand j'étais enfant et surtout plus tard, vers mes 20 ans, c'était vraiment très, très, très rien. Très pénible.
Alors, c'était quoi, rien ?
J'étais aboulique, je ne savais pas quoi faire, j'avais du mal, je ne bouffais pas, je n'avais pas d'habitation, je zonnais, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, quoi. C'est chiant. Alors, en revanche, quand j'avais faim, je regardais les vitrines des charcuteries et tout, et je me suis toujours dit, dès que j'ai du fric, je boufferais tout le temps.
En l'an 2000, Richard Morgiev publie « Ma vie folle » aux éditions Pauvert. Cette vie folle, c'est la sienne. Celle d'un orphelin qui s'est mis à écrire comme on survit, comme on se lance dans une aventure extrême. Il y a des points, mais aucune virgule dans ce livre. Comme si ça urgeait, comme si les phrases ne pouvaient être que balancées d'un trait. Extrait, page 11. Ma mère est morte lorsque j'avais 7 ans, mon père lorsque j'en avais 13. Je suis un peu honteux d'écrire ça, car je l'ai déjà écrit, mais je vous assure que je ne veux pas m'en resservir par complaisance ou parce que je n'aurais rien de mieux à dire. Je veux comprendre. J'imagine que maman m'aimait et j'imagine qu'au fil des années, la fatigue et le désespoir et la maladie l'ont séparée de moi et moi d'elle, et j'aurais aimé être le fils de ses années et de sa vie. Son fils, tout le temps. Et je t'aime à en mourir et je l'écris du fond du cœur, et certainement qu'il ne faudrait pas que je parle comme ça. Il y a tellement de faits et d'actes mystérieux qui me lient à toi, tellement de chagrin et d'effroi, tellement de souffrance. Je suis séparée de toi, trop, affreusement trop. Alors à partir de quand vous avez décidé d'écrire ?
Enfin, malheureusement, on pourrait dire, c'est quand mon père est... Dans le temps que mon père est mort, c'est à cette époque-là, je voulais vraiment être... je voulais pas être écrivain, je voulais être poète.
Alors, dans le temps où votre père était mort, à ce moment-là, vous aviez 13 ans.
J'avais 13 ans, voilà. Je voulais vraiment être poète, c'était un truc... Enfin, je voulais être poète, pilote de chasse et camionneur. Mais principalement poète. J'ai réussi à être camionneur, pas pilote de chasse. Et poète, en fait, en vérité, j'essaie de le cacher dans mes livres. Parce que si vous voulez, mais les éditeurs ne me donneraient pas de l'argent si je leur disais que c'était de la poésie. Donc je leur dis que c'est des romans, mais en fait, en vérité, moi, j'en suis pas persuadé. Je pense que, j'espère que c'est une sorte de poésie. Enfin, écrire n'a pas beaucoup d'intérêt si c'est juste écrire. Ce qui est beau, c'est pouvoir faire passer des choses qui ne sont pas du domaine de l'écriture. L'écriture, c'est, mettons, X va chez Y, il prend l'autoroute et il pense à. C'est pas très motivant, moi j'écrirais pas si c'était juste faire ça. Donc c'est le reste. C'est ce qui se voit pas, c'est cruel. Et c'est pour ça que c'est beau.
C'est cruel d'écrire ?
C'est cruel si on essaie d'écrire. C'est cruel parce que ça sert à rien. Tant qu'on remplit des lignes, qu'on dit « machine aime, machin, elle se donne à lui, il s'aime, cool », on fait un livre. Il y en a plein de livres comme ça, il y en a des caisses. Maintenant, si on essaie de mettre justement ce qui ne se lit pas au fond, ce qui ne s'entend pas, c'est cruel. Pour moi, l'art est là, dans cette cruauté-là, dans ce qu'on ne voit pas.
Extrait de « Ma vie folle » de Richard Morgiev, page 9. Je veux m'en sortir avec les mots sont mon héritage, ma lumière, mon sang. Je me suis fait avec les mots, c'est vrai. Et je suis malheureux car tout ce que j'écris depuis presque 3 ans est mauvais, insincère, pas suffisant, ou justement, suffisant, gras, faux, et je me sens bête et inutile. C'est comme si tout avait été fait pour que je me sente bête. Il faut comprendre que par l'écriture, je ne suis pas devenu intelligent, mais je suis devenu. J'ai perdu une partie de mes complexes par rapport à l'intelligence. J'ai compris, sans chercher à comprendre, que l'intelligence, ce n'était pas la question, et que ce qui comptait, entre autres pour moi, c'était faire beau. Et faire beau, c'était ma mission sur notre terre par l'écriture. Je me suis réalisé, j'ai existé, et je suis re-né par l'écriture.
Stay across. How are you waiting? éclectique.
Richard Morgiev et Rebecca Manzoni.
Ah, j'adore. Dans cet ordre, théoriquement, c'est plutôt Rebecca Manzoni et Richard Morgiev. Ça me choque de dire...
Ouais, c'est bon.
Oh, je peux dire comme je le veux ou pas.
Allez, allez.
Rebecca Manzoni et Richard Morgiev.
Sur France Inter.
Richard Morgiev est écrivain et là, je dis...
Je vais vous faire écouter la voix d'un cinéaste.
Le cinéaste s'appelle Melville.
Ah, c'est... J'adore.
Melville Jean-Pierre, cinéaste que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jean-Pierre Melville, donc, pour Le Samouraï avec Delon, Le Deuxième Souffle avec Ventura, ou Le Cercle Rouge avec Delon toujours, et Bourville. Le plaisir qu'on prend à écouter un bonhomme comme ça, c'est de se remettre dans l'oreille l'élégance d'une diction. Voici Jean-Pierre Melville en 1969, dans Radioscopie.
Ah, j'ai quitté le lycée à 16 ans et demi, j'ai passé mon premier bac à 17 ans. Et puis, après, ça a été complètement fini. Je fais un peu toutes sortes de métiers. Je ne voulais plus du tout faire d'études. Mon frère, qui était un agrégé en différentes matières, je ne sais même plus lesquelles, tellement il était agrégé un nombre de fois incalculable, voulait absolument que je sois comme lui, un intellectuel à diplôme, et moi, je ne le voulais pas. Alors, j'ai refusé absolument de continuer mes études et... Je suis parti travailler n'importe où à 200 francs par mois.
Qu'est-ce que vous avez fait comme petit métier ?
Oh, n'importe quoi. Alors ça, c'est un racontable, tellement il y en a eu. Enfin, grouillot pour commencer, mais enfin, libre. Libre et puis libre de rêver, surtout, ce qui était important.
La liberté, pour vous, c'est pouvoir rêver.
Ah oui. Se promener des semaines. Parce que après mon père étant mort, un an après la mort de mon père, disons que j'étais un enfant pauvre. Enfin, un enfant. J'avais 15 ans. Et... Je me souviens, je vois très bien encore le petit adolescent, car j'étais petit, qui se baladait rue Réaumur avec des semelles trouées. J'en ai gardé le souvenir absolument, ça. Mais seulement j'étais libre de rêver.
C'est mon cinéaste préféré, quand même. J'étais en très grande admiration et je trouve qu'il a fait des films magnifiques. Et d'ailleurs... Un qui est tellement magnifique que je ne peux revoir parce qu'il me brise, c'est L'Armée des Ombres. Je ne peux pas voir ce film tellement il est violent.
L'Armée des Ombres, le film français sur la résistance et donc sur l'amitié, la trahison, la droiture et des compagnons qui s'entretuent. Il y avait Signoret, il y avait Ventura. Le film est sorti en 69.
Et votre mari ? Elle est au courant de vos activités ?
Absolument pas. Ma fille non plus. C'est elle. Elle a 17 ans.
Gardez pas ça sur vous.
Vous avez raison, je vais m'en séparer.
Avant même de reprendre ce que je n'ose appeler la routine, nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une ?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix.
C'est un film tellement beau, mais je ne peux pas le revoir. Ça me fait trop de peine, ça m'oppresse. C'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est horrible. Je m'en suis pas relevé, en fait. Et alors, ce que j'ai appris, peut-être que c'est faux, mais enfin, Melville avait une super mauvaise réputation de type vraiment pourri, quoi. Et ce qui est beau et magnifique, c'est qu'apparemment, c'est l'histoire de son propre réseau de résistance.
Et c'est un parcours qui vous parle aussi, ça.
Oui, mais moi, je n'ai pas son intelligence. Moi, je pense, bien sûr que ça me parle, parce que et bien sûr que je suis un homme, et dans ce monde, on ne veut plus d'hommes et plus de femmes, et qu'un seul sexe indifférencié. Melville est un cinéma d'hommes, et c'est beau. C'est beau d'être un homme. On ne le dit plus maintenant, il ne faut plus dire quoi, c'est beau d'être un homme. C'est vachement beau, quoi. On a besoin des hommes, même de leurs conneries, comme on a besoin des conneries des femmes. S'il n'y a plus de filles qui passent dans la rue, qui a caniche et des hauts talons, on fait quoi, nous, à la terrasse des cafés? On en a besoin, on a besoin des femmes. S'il n'y avait pas de femmes, on crèverait, donc... C'est des films sexués, voilà. Où il y a vraiment... voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y en a. Et maintenant, on fait des films où il n'y en a pas. Alors, c'est chiant.
Vous, vous faites des livres où il y en a.
Ah oui. Ah oui. Alors, moi, c'est sûr, clair et net. Mes livres sont sexués, du sexe masculin. Et je suis un écrivain du sexe masculin et j'y tiens beaucoup.
Pourquoi vous dites « j'aime bien les gens qui se sont faits tout seuls » ?
Ben parce que, d'abord, souvent c'est des chiens d'ailleurs, c'est des gens chiants, quoi. Ils sont pénibles, ils peuvent être même à la limite cons, ils ont des préjugés, tiens. Mais ils parlent autrement, je trouve, et souvent ils n'utilisent pas cette langue médiocre qu'on utilise aujourd'hui, où, bon, voilà, il faut pas dire de gros mots, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela... Souvent, les autodidactes ont des points de vue assez tranchés. Ils ont été obligés de trancher, tout de suite.
Quand vous dites les gens qui se sont faits tout seuls, donc les gens qui sont autodidactes,
oui.
Ils ne parlent pas comme tout le monde.
Oui. C'est peut-être un peu sourd ce que je dis, c'est l'impression que j'ai, disons.
Mais il y a ça dans vos livres.
Voilà, moi j'ai appris à faire ma langue. Tout le temps, c'est Richard Morgève. Sous chaque mot, regardez, je raconte une histoire avec mes mots et tout. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'appel du pied. Jamais je dis au lecteur, t'es intelligent. Je déteste ça. Le lecteur doit lire mon livre sans aucun sentiment frelaté. C'est juste, paf, ce que j'ai fait pour lui, mais pas pour lui complaire. Mes livres sont exactement moi. Il faut que ça soit juste. Donc, il faut, pour être juste, mais il faut être absolument vrai à de chaque poil de son corps.
Votre devise d'écrivain, c'est ça. C'est la justesse de ne jamais vous trahir, vous, voilà. Richard Morgève, le bonhomme que vous êtes.
Jamais. Et donc, je ne trahis pas l'autre. Si je suis digne avec moi-même, si je n'ai pas fait ma pute, le lecteur peut penser ce qu'il veut de mon livre. Mais je ne l'ai pas trahi. Il n'aime pas mon livre. Tout à fait acceptable, mais je ne l'ai pas trahi. S'il veut bien rentrer dans mon monde, eh bien, il en aura pour son fric. Pour que ça soit beau, il faut que ça soit honnête. Ça se tient par la barbichette.
En 2002, Richard Morgève écrit « Mon petit garçon » paru aux éditions Joël Losfeld. C'est le livre d'un père, d'un fils et d'un homme qu'on a quitté. Richard Morgève écrit « Il faut que je change pour mon petit garçon. Mon petit garçon a minci, il est long. Mon petit garçon a de très grands cils. Ils sont recourbés sur ses verres de lunettes. Des grands cils tels la femme de Mickey. Mon petit garçon porte des lunettes depuis que sa mère ne m'a plus aimé. Lui aussi n'a plus voulu voir comme avant. On a tous les deux des lunettes. Deux petits vieux qui vont être séparés. C'est inéluctable. Mais peut-être que comme on ne voit pas grand-chose, on ne verra rien de notre séparation. Mon petit garçon a un grand front et une bouche belle, charnue, bien dessinée. Mon petit garçon a sûrement le même sexe que moi quand j'étais il y a longtemps petit garçon. Mon petit garçon est tout innocent et roué comme un petit garçon. Depuis quelque temps, il est triste de ne pas me voir aussi souvent qu'il le voudrait. Avec sa mère, on a appelé son état le blues du papa. C'est le soir, il dit à sa maman « J'ai le blues du papa ». Il me téléphone, je lui dis des bêtises dont j'ai le secret. Ça le fait rire.
Vous savez ce livre ? J'étais quand même dans la merde et j'ai mis la photo de mon fils, que j'ai là toujours, et je me suis dit, on va se sauver, je vais lui écrire un livre pur. Ça va être notre bouée de sauvetage. Et ça marchait. Mais j'avais besoin de le faire, ce livre. Je voulais dire mon petit garçon. Je voulais le marquer, l'absolue merveille. Mon petit garçon, c'est tout con. Et comment vivre sans ces trois mots ?
Pourquoi vous dites j'étais dans la merde à ce moment-là ?
Bah parce que sa mère m'avait plaqué, alors c'était pas très drôle. J'avais quand même 50 ans, César avait 3 ans, et c'est un sport. Donc j'habitais au 5e étage, dans un appartement vide. Je me suis retrouvé, il était malade un jour, il avait 42 de fièvre. Donc le mettre dans une couverture, galoper dans les rues comme un fou. Maintenant, vous le verrez, il est passé tout à l'heure, il me fait la gueule. Il mesure, je sais pas, complètement, peut-être pas 1m80, mais pas loin. Il me déteste pas. C'est normal. Hein. Ouais, lui dis-je dans ma tête. Quand tu étais petit, lui dis-je toujours dans ma tête, je t'ai humé le crâne. Et ça, ça m'a permis maintenant de vivre. Mais l'odeur du crâne des enfants est une merveille. Aucun parfumeur n'y a pensé. C'est un lien merveilleux. Donc, la nuit, je venais lui sentir le crâne. Voilà.
J'ai un peu perdu le fil. Hein, c'est vrai.
Vous rangez souvent les ongles ?
Non, pas du tout.
C'est juste dans les émissions.
Vous les rangez, vous ?
Non. Ouais. Non. Je vous montre ma main, mais avant, avant, j'aimais mes mains, mais je les aime plus. C'est comme tout le reste. Donc, je vous ai vraiment montré, parce que je ne me range pas les ongles. Mais je fais déjà trop de trucs. Avec mes mains, j'écris, je ne peux pas en plus me ranger les ongles. Ça empêche. La preuve que je ne vole pas mes livres, c'est que je n'ai pas le temps de me ranger les ongles. Je tape.
Sur France Inter.
C'est l'histoire d'un beau gosse qui se fait copieusement casser la gueule au fin fond du Texas. C'est comme ça que commence le dernier roman de Richard Morgiev, United Colors of Crime. Le beau gosse s'appelle Shaim Schlebeck, mais c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Rizard Morgievitz. Il a piqué le nom de Shaim à un soldat qui est mort à ses côtés pendant la bataille de Monte Cassino en 1944. Et puis Shaim va s'inventer une vie de gangster aux États-Unis au service de la mafia. Un jour, il se retrouve donc au volant d'une Buick avec un sac rempli de dollars.
C'est-à-dire que je voulais aller aux États-Unis pour écrire ce livre. Je voulais enfin recycler tout l'amour que j'ai pour les États-Unis et la littérature américaine. Donc le Texas, c'est un endroit mythique de ma culture. La culture de tout le monde. Je veux dire, les westerns, patati patala. Les espaces, patati patala. Et puis, quand même, il y avait une raison. J'ai rencontré en 2007 un Américain qui s'appelle Ralph Schoolcraft et qui est devenu un très grand ami. Et un jour, qui est venu me voir dans une librairie en me disant qu'il avait tout lu mes livres. Et je me suis dit, c'est un plaisantin. Et j'avais Ralph qui pouvait relire mon livre et me dire, Richard, ça va pas. Voilà. Donc, parce que Ralph est prof de français à College Station, une grande université au Texas.
Et donc, à ce sujet-là, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Une musique.
Ah ouais, c'est Rocket 88 ?
Rocket 88, c'est comme la bande originale du livre de Richard Morgiev, United Colors of Crime. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
C'est ce qu'on dit, on dit que c'est le premier morceau de rock. Donc, ça a été enregistré en 1951 et j'ai situé mon livre en 51 parce que c'était la joie du consumérisme, les soubresauts de la fin de guerre. Donc c'était encore un moment, j'aime bien les bascules dans l'histoire.
Et comment cette chanson est entrée dans le livre ?
Alors ça, c'est comme, vous savez, d'abord ce livre, évidemment c'est un mystère comme tous les livres, mais peu à peu, évidemment, il s'est imposé à moi. Par la première phrase, après je l'aurais écrit 500 fois, mais la première phrase m'a capté.
Alors je vais la lire.
Une bête s'arrête, effarée par cette chose de lumière qui la cloue sur la route en terre.
Voilà. Ça, c'est l'arrêt. Et c'est tout de suite ce qu'on sent, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça, une bête. Et puis après, il y a la deuxième phrase, c'est le héros, il ne connaît pas le nom des bêtes. Il connaît que le nom du fric et de la mort. Ça m'a trop branché.
Shem ne connaît pas le nom des bêtes en anglais, mais celui du fric et de la mort, oui.
Voilà, on a tout. On a l'image de la bête, la vie brutale, et un héros qui est capable quand même déjà de penser à ce niveau. Il a juste appris un anglais de tueur. Alors qu'il a les dons des langues, il aurait pu apprendre l'anglais parfaitement, mais s'en est foutu. Juste le nom du fric et de la mort. J'adore. Maintenant,
pourquoi vous adorez ?
Shem, il a trempé les mains dans la merde et le sang. Et c'est bien. Je préfère les hommes comme ça. Aux hommes qui sentent bon le déodorant, quoi. Moi, je trouve que c'est bien l'excès. Sans excès, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait même pas de mort. Et d'ailleurs, vous savez ce que disait Groucho Marx ? Trop, c'est juste assez.
Texas, États-Unis, un jour de l'année 51. Shem roule au volant d'une Buick avec un sac de sport rempli de billets sur la banquette arrière. Des gars lui tombent dessus, et pas qu'à moitié, ils le tabassent au point de le défigurer pour toujours et de le laisser pour mort. La page d'après, Shem se retrouve direct à l'arrière d'un pick-up. Et puis dans un lit immobilisé avec une indienne qui tente de le recoller, de le soigner. Extrait de United Colors of Crime de Richard Morgiev, page 39. C'est l'aube pour ceux qui marchent et qui fument. Pour Shem, qui veut chier, c'est la honte. C'est plus facile de tuer un type que de demander le bassin. Plus facile de mourir. Il regarde la clochette suspendue à sa gauche. Au bout, une ficelle décorée de plumes. Bon sang, il est dans une putain d'histoire de peau rouge et il ne peut pas tourner la page. Des fois, un simple geste, c'est plus long qu'un salivaire. Elle s'approche, d'un regard comprend et glisse le bassin froid. Shem est désespéré, plus humilié que jamais. Il préférerait reprendre un coup de crosse au travers de la gueule, il serait au moins inconscient. C'est fait, il est libéré, mais elle le torche, fait brûler une sorte d'encens dans la soucoupe. Shem s'endort, il se sent protégé, il sait que ça va être pénible, mais un jour, il pourra pisser tout seul. Voilà un but, se dit-il. Avant, je n'avais pas de but.
Vous coupez beaucoup, vous, quand vous écrivez?
Ah, vous avez remarqué. J'ai appris ça au cinéma. J'ai beaucoup travaillé dans le cinéma, avec des gens, des tortionnaires, qui me méprisaient et me crachaient dans la gueule. Mais ils m'ont beaucoup appris. Ah oui, je pourrais vous raconter des histoires de cinéma délirantes. Mais j'ai beaucoup appris. D'abord, j'ai appris à me faire marcher sur la gueule, ce qui est bien. C'est parce que je sais résister. Si on essaie de me marcher sur la gueule, je sais faire la différence au moment où on peut marcher sur la gueule et au moment où il ne faut pas. Puis j'ai appris donc d'un cinéma à couper. Il y a plein de gars ou de filles, ça me fait rire, qui font des ellipses, mais je vois bien qu'elles n'ont pas été écrites. Il faut écrire et couper.
Comme ça, on le sent.
Et oui, parce que c'est juste, si c'est juste un truc de feignant, c'est absurde. Il faut donc l'écrire et le couper. Là, dans ce cas-là, le lecteur sait qu'il y a l'ombre. Vous savez, c'est comme les architectes qui se disent, tiens, là, je vois les fantômes des poutres. Vous, vous ne les voyez pas. Mais eux, les architectes, les voient.
Et le lecteur, ouais, parce qu'ils savent que c'est là.
Voilà, et le lecteur le sait. Ça le dérange et ça l'énerve, d'ailleurs. Et j'en suis sûr. Mais c'est bon d'énerver le lecteur.
Ah ouais?
Oui, parce que sinon, il se fait chier. Et il faut toujours tirer le paillasson sous les pieds du lecteur. Donc, le lecteur se dit, tiens, machin ouvre la porte, derrière la porte, il va y avoir... Eh ben non. Ça, c'est le travail de la coupe. Clac. Et puis, j'avais des interdits, pas le mot bite, pas le mot cul, parce qu'on est en 50... J'en ai trop écrit comme ça, et en 51, on parlait pas comme ça. Moi, ce qui me branchait vraiment dans ce livre, je vais vous le dire parce que je suis vraiment... Je dois être honnête avec vous, c'est que j'adore les bagnoles. Je suis un vieux. Les bagnoles des années 50, les flingues, tout ça, ça fait quand même partie d'une mythologie. Et ça fait partie au Texas. Au Texas, on a des armes. Hein, on a des bagnoles et des armes. Et les hommes de la génération de Shem, ça comptait beaucoup. Et le livre, d'ailleurs, c'est Shem, il est content d'être dans une voiture. Les voitures vivent et meurent comme des hommes. Ça, c'est beau. Il le sent. Donc, je voulais qu'il y ait ça dans ce livre.
Pourquoi vous aviez choisi ce genre du polar pour commencer?
Eh ben là, ça, alors ça, je peux vous répondre parce que j'ai pigé un jour. Papa était un homme assez cultivé et à la fin de sa vie, il ne disait que des romans policiers. Je pense que j'écris des romans policiers pour que mon père me lise. Et c'était trop tard, mais je pense que c'est vrai. Et dans un de ces romans policiers que je vous conseille, qui s'appelle, qui a deux titres, qui s'appelle L'arnaqueur ou In the Pocket. Et il est sorti en France pour la fin sous le nom de In the Pocket. Un type qui s'appelle Rosen a fait un film qui s'appelle L'arnaqueur. C'est un très beau film. Et il y a une parabole magnifique. C'est un héros, le héros qui s'appelle Eddie Vitefait, joue au billard. C'est un trafiquant. Un voleur.
C'est un film avec.
Paul Newman, le premier.
Ouais,
mais j'aime pas le deuxième, le remake qu'a fait.
Ouais, avec Tom Cruise, là.
Voilà. Alors, le mec, il joue Eddie Vitefait. Et il joue contre un type qui s'appelle Minnesota Fats, je crois. Et il gagne. Le gamin, il gagne. Et à un moment donné, dans la nuit, le gros lui dit, je veux 5 minutes d'interruption. Et le gamin, lui, reste dans sa sueur et sa gloire. Et le vieux, il revient, il est propre, lavé, parfumé. Et il baise le jeune. Il gagne. J'adore ce livre. Quand on gagne, il faut toujours quitter la scène pour y revenir. Sinon, on perd. Donc, moi, je m'arrête tous les 5 minutes quand j'écris pour faire quelque chose. Et je reviens. Pour me parfumer, me laver les dents, laver des chaussettes, etc. Il faut sortir, toujours. Alors, ça me fait, des fois, ça me fout en l'air. Et des fois, je retrouve pas l'impulsion. Mais quand je la retrouve, le but étant de rechercher l'impulsion. Mais pas de la laisser s'épancher. Hein, parce que c'est, dans ce cas-là, c'est juste de la masturbation, quoi. C'est idiot. Donc il faut que, c'est un peu comme le tantra, quoi. Il faut essayer de jamais jouir.
Pour éviter la complaisance.
Eh oui, et pour arriver au bout. Enfin, ça peut paraître farfelu, mais ça fait vraiment plus de 30 ans que je bosse ça, ce genre de plan, quoi. Et je pense que c'est vraiment sérieux. Alors, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, mais fut, comme j'écris depuis 32 ans, je peux me permettre d'avoir des théories. Je me le dis. Hein.
Le dernier exercice de l'émission, c'est une minute de solitude.
D'accord, c'est-à-dire, je pars.
Non, je vous laisse tout seul avec le magnéto.
Oui, et le micro donc.
Et le micro. Quand vous estimez avoir fini, vous posez le micro.
Voilà, et je viens vous chercher.
Voilà, vous m'appelez. D'accord. Vous pouvez chanter, vous pouvez crier.
Chanter.
Vous
tenez à votre émission.
Déclarer ce que vous voulez. Ok.
Sans problème.
Voilà.
Bon, vous cassez pas la figure dans l'escalier.
Ok.
Et donc, il faut que je démarre à quel moment? Quand je vous vois à votre dos?
Quand vous entendez la porte en bas qui...
Ah d'accord, donc c'est long. Alors mettez de la lumière parce que vous allez vous fracasser la tête. Je ne sais pas si tu danses. Je ne sais pas où tu es. J'aimerais brosser tes cheveux et en faire une natte. Si tu danses, je vois des reflets roux comme des chiens qui bondissent dans les pieds des danseurs. Et je suis très ému parce que je me souviens de mon chien Vic. Et je me souviens du chat Bijou. Quand j'étais enfant, c'est dans leurs bras que je me suis sauvé. C'est eux qui m'ont appris à vivre. Je me regardais dans la glace et je savais bien que je n'étais pas un être et que j'étais une existence. Mais avec le chien Vic et le chat Bijou, j'avais l'impression d'être aussi une existence chaude. Dans les yeux du chien Vic et dans les poils du chat Bijou, j'ai vu ma mère. Et ma mère était en train de mourir. Et ça durait assez longtemps. Et avec le chien Vic et le chat Bijou, eh bien, je me suis retrouvé une autre mère. Et en fait, quand je pense à toi, je pense à tout ce temps-là. Je pense au chien Vic, au chat Bijou, et j'ai envie de te peigner les cheveux parce que tu vis. Et moi, je suis ému de penser à la vie.
Éclectique.
J'ai rien coupé, hein.
Musique.
والناس سمعوا الصوت
Éclectique ce matin, Jean-Michel Montu, vous avez choisi Rockin' the Casbah dans une version de Rachida, Serge Gainsbourg, Vieille Canaille, et Polissa, Lay Your Cards Out. Yann Chouquet a réalisé cette émission avec Charles Danet ce matin. Fanny Leroy prépare Éclectique chaque semaine. Vous pouvez tout savoir et tout dire sur notre petite entreprise en un clic sur Éclectique à l'adresse franceinter.fr. Le carnet de balles de l'émission se remplit pour les prochains dimanches avec Lucas Bellevaux, cinéaste, Béatrice Dalle, comédienne, François Damiens, belge, Brigitte Fontaine, chanteuse, Daniel Prévost, comédien et Serge Resvani, écrivain. Bouche, palais, pupille, c'est le programme dont va déguster de François-Régis Gaudry, c'est juste après les infos. Moi je vous dis salut et bon dimanche.